Nous arrivons maintenant à Hébreux chapitre 9. Dans ce cas, il n'y a pas de citation exacte. Mais quand même, ça vaut la peine de prendre du temps avec ce chapitre, parce que il y a toute une liste d'allusions à l'expiation de l'ancienne alliance. Après tout, notre auteur a parlé du sacrificateur et de l'alliance, mais un sacrificateur a toujours quelque chose à offrir. Et l'ancienne alliance a comme point tournant le tabernacle. Et donc, il faut méditer davantage que fait, la question de que fait le sacrificateur dans le tabernacle, dans le temple. Qu'est-ce qu'il offre? À quoi bon? Avec quel résultat? Pour démontrer qu'encore une fois, il y a des liens entre le sacrificateur souverain de l'ancienne alliance et le sacrificateur de la nouvelle alliance. Dans verset 1 à verset 10, l'auteur nous donne une esquisse de ce qui prend place sous les termes de l'ancienne alliance. Verset 1 à verset 5, il y a une place, c'est-à-dire le tabernacle. Verset 6 et verset 7, une offrande. Verset 8 à verset 10, une approche. Et ensuite, ces trois choses, la place, l'offrande, l'approche, on les reprend de nouveau pour la nouvelle alliance dans les versets qui suivent. La place, verset 11, l'offrande, verset 12, l'approche, verset 13 et verset 14. Eh bien, commençons avec la place. Verset 1 à verset 5. La première alliance avait, elle aussi, ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé dans la première partie, appelée le lieu saint, se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis, derrière le second voile, se trouvait la partie appelée saint des saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Eh bien, nous allons examiner quelques-uns de ces détails, mais cette dernière phrase est intéressante, n'est-ce pas? Parce qu'elle suggère que si l'auteur avait essayé de temps ou d'espace, il aurait pu donner une exposé encore plus détaillé et compliqué qu'il l'a fait. Donc, quand quelques personnes aujourd'hui posent la question, est-ce qu'on a le droit de trouver des types de l'Ancien Testament hors de ces choses qui sont nommées types dans le Nouveau Testament? Eh bien, j'avoue, c'est bien facile de créer une espèce de typologie si mal contrôlée que l'exégèse, ça devient la folie, hein? La corde rouge de Rahab, ça signifie le sang rouge de Jésus-Christ, ou quelque chose aussi ridicule. Mais quand même, si nous apprenons comment lire nos Bibles, dans les typologies que la Bible elle-même souligne et explique, apparemment, C'est possible aussi d'aller encore un peu plus loin dans ces autres domaines que notre auteur n'a pas encore expliqués. Cette deuxième phrase de verset 5 est intéressante, n'est-ce pas? Eh bien, verset 2. En effet, un tabernacle avait été installé dans la première partie appelée le lieu saint, c'est-à-dire le côté est, se trouvait le chandelier, la table et les pains de la proposition. Il n'y a pas de mention ici du cour extérieur avec l'autel, la place pour se laver, Exode chapitre 40, versets 6 à 8. Il n'y a que deux objets qui sont mentionnés, les objets qui se trouvaient dans le lieu saint, c'est-à-dire Exode chapitre 25, 31 à 40, le chandelier, aussi Exode 37, 17 à 24, et la table du pain de proposition, Exode 25, 23 à 30. Verset 3. Le Saint des Saints, avec une voile qui divisait les deux portions du tabernacle. Elle contenait, eh bien, un brûle-parfum. Le mot en grec c'est thumaterion, et la plupart de nos versions dans l'Ouest, nos versions françaises, allemandes, espagnoles, anglaises, et ainsi de suite, rend ce mot pas par brûle-parfum, mais comme dans le texte au bord de la page, le footnote, le note en bas de la page. Il y a bien d'autres traductions qui disent que c'est l'autel des parfums. Le problème, c'est que l'autel des parfums ne se trouvait pas dans le Saint des Saints. L'autel des parfums se trouvait dans le lieu saint, tout simplement. Mais le mot utilisé, thumaterion, plus souvent fait référence à l'autel de parfums. Mais l'autel de parfum était couvert d'or. Cette expression ici, c'est en or. Et certainement, c'était le brûle-parfum qui était construit d'or. C'était utilisé dans le service du grand prêtre, du souverain sacrificateur, le jour de l'expiation annuelle, dans le Saint des Saints. Donc, il me semble qu'il faut rendre ce mot par le brûle-parfum et que la version Colombe a raison ici. Si vous voulez voir quelques textes, l'autel de parfum, c'est mentionné dans Exode chapitre 40, versets 3 et 5, dans le lieu saint. Et le fait que cet autel a été couvert d'or, mais n'était pas construit d'or, Exode 31 à 10, Exode 37, 25 à 28. Donc, je prétends que ce brûle-parfum, c'est l'instrument qui est mentionné dans Lévitique, chapitre 16, verset 12 et verset 13. Lévitique, chapitre 16, verset 12 et verset 13. Probablement, ça vaut la peine de prendre un instant pour lire ces versets. Lévitique 16. Il prendra, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et deux pleines poignées de parfum aromatique en poudre. Il portera cela au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra pas. Probablement, c'est l'instrument qui est en vue, le brûle-parfum. Ensuite, l'arche de l'Alliance, Exode 25, 10 à 16, Exode 37, 1 à 5. Il y a trois articles qui sont mentionnés, parce qu'au début, il y avait trois articles dans cette arche de l'Alliance. Une urne d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Mais dans le temps du Nouveau Testament, il n'y avait qu'un seul objet dans l'arche de l'Alliance. Les deux autres ne sont pas mentionnés après 1 Samuel chapitre 6, verset 10 à verset 15, quand l'arche a été pris par les Philistins et ensuite lorsque cette arche a été retournée aux Israélites, après ce temps-là, jamais nous ne trouvons mention des deux autres objets, seulement l'arche, seulement les tables de la loi. Le propitiatoire. C'est-à-dire, c'est la couverture de l'arche de l'Alliance, et probablement ça vaut la peine de prendre un instant pour essayer de comprendre ce mot. En grec, hilasterion. Le mot est plutôt rare dans le Nouveau Testament, mais ce mot se trouve dans plusieurs passages intéressants quand même, surtout Romains chapitre 3. Dans un passage peut-être le plus important dans le Nouveau Testament pour comprendre ce que la croix a accompli, 3:25, c'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, que Dieu a destiné comme moyen d'expiation, je préfère de propitiation, c'est le même mot, hilasterion. Pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice. Quelle est la différence entre expiation et propitiation? Donc, je vous pose la question parce que je ne vous connais pas. Est-ce que vous êtes au courant de ces discussions ou non? Ou est-ce que c'est plutôt étrange? C'est encore un mot de sacrifice, ça signifie quelque chose? Donc, vous êtes tous experts à ce sujet maintenant? La différence entre expiation et propitiation? Oui? Bon, je n'ai pas besoin de dépasser du temps à cet égard. Dans plusieurs Bibles européennes, mais ça dépend un peu de la langue, avant le 20e siècle, dans Romains chapitre 3, verset 25, on trouvait le mot propitiation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un acte de sacrifice qui rend Dieu propice, c'est-à-dire favorable. Donc, l'objet de la propitiation, c'est Dieu. Dieu est contre nous, ou il est en colère envers nous, et ce sacrifice lui rend propice, c'est-à-dire favorable. Dans l'expiation, l'objet, c'est le péché. L'expiation, c'est l'acte de sacrifice qui cancelle le péché. L'objet, donc, ce n'est pas Dieu, mais le péché. Est-ce que j'ai annulé, pas cancellé? Merci. Donc, l'objet de l'expiation, c'est le péché, et par l'expiation, le péché est annulé. Comment donc faut-il comprendre le mot hilasterion dans Romains chapitre 3, verset 25, et des passages semblables? Dans 1932, un professeur du Nouveau Testament en Angleterre nommé Dodd, D-O-D-D, a écrit un essai qui était publié en 1933 ou 34, j'oublie, dans son livre The Bible and the Greeks, la Bible et les Grecs. Et ce qu'il disait, c'est que dans la théologie du Nouveau Testament, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Si Dieu est déjà tellement propice envers nous qu'il donne son Fils unique, comment peut-on avoir la théologie qui dit que par le sacrifice de Christ, Dieu devient propice? Il est déjà tellement propice envers nous qu'il envoie son Fils. Comment donc est-ce que le don de son Fils, surtout sur la croix, peut lui rendre propice? Il est déjà propice. Autrement, il n'aurait jamais envoyé son Fils. En plus, il disait, ça ne fait pas du bon sens. Dans le monde païen, nous autres, nous les pécheurs, nous offrons des sacrifices propitiatoires envers les dieux, afin que les dieux deviennent propices. Ces dieux païens sont toujours en colère. Ils sont toujours un peu difficiles à comprendre et à plaire. Et donc, on leur offre des sacrifices. On veut faire un voyage par bateau, donc on offre un sacrifice à Neptune, pour le rendre propice, afin que nous puissions avoir un voyage sauf et sain. Mais, dans ce cas, c'est Dieu lui-même qui offre Christ. Nous autres, dans le monde païen, nous offrons le sacrifice pour rendre propice les dieux. Mais si c'est Dieu qui est le sujet de ce sacrifice, c'est-à-dire qui offre le sacrifice, comment est-ce que le Dieu qui offre le sacrifice peut devenir propice à cause du sacrifice qu'il offre lui-même? Ça ne fait pas du bon sens. Dieu ne peut pas être à la fois le sujet et l'objet d'un sacrifice propitiatoire. Et son essai a tellement gagné influence que presque partout le monde était persuadé par son argumentation, et donc la plupart des traductions dans ce temps-là ont changé propitiatoire à expiatoire, ou propitiation à expiation. Après tout, il y a un sens que la Bible, que le sacrifice de Christ annule le péché, n'est-ce pas? Mais dans 1955, Roger Nicol, le frère de G.M. Nicol, a écrit un essai publié par Westminster Theological Journal, un essai de 40 pages à peu près, pour indiquer, selon lui, que dans l'Ancien Testament et dans le monde grec, dans le Nouveau Testament, ça doit être propitiation quand même. Et dans 1965, un Australien nommé Leon Morris a écrit un livre avec le titre « The Apostolic Preaching of the Cross ». Est-ce que quelqu'un l'a traduit ou non? Si vous savez lire l'anglais, c'est un livre à acheter et lire même aujourd'hui. « The Apostolic Preaching of the Cross ». Et ce que Morris fait dans son livre, il y a bien des chapitres sur plusieurs choses, mais en ce qui concerne la propitiation, ce qu'il mentionne, c'est que dans la Septante, le mot helasterion se trouve à peu près 21 fois, et 14 sur 21 de ces occasions font référence à la couverture de l'Arche de l'Alliance, qui reçoit le sang de ce sacrifice une fois par année par la main du souverain sacrificateur, et dans l'Ancien Testament, c'est pour gagner la faveur de Dieu. Autrement, sa colère serait tellement fort que les Juifs seraient détruits, que le prêtre serait détruit. C'est pour que Dieu devienne propice. C'est-à-dire, assez souvent dans l'Ancien Testament, quand on trouve ce mot, ou l'hébreu, derrière ce mot grec, la colère de Dieu se trouve dans le contexte quelque part. Si la colère de Dieu se trouve dans le contexte quelque part, le point de ce sacrifice est pour annuler la colère de Dieu, pas tout simplement le péché. Dans ce sens, c'est Dieu qui est encore en vue. C'est lui qui est l'objet de ce sacrifice, vous voyez. Et dans Romains chapitre 3, après tout, Romains chapitre 3 est dans le contexte de Romains chapitre 1 et 2. C'est un argument qui commence dans Romains chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce que nous lisons dans Romains chapitre 1, verset 18? Qui introduit toute l'argumentation qui prouve, en fin de compte, que tout le monde est condamné, juif et païen, tous les deux, tous sont condamnés. Comment est-ce que ça commence? Romains chapitre 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu manifeste pour eux, et ainsi de suite, ainsi de suite. » Toute la discussion est introduite par le thème de la colère de Dieu. Et donc, ce dont nous avons besoin, c'est ôter la colère de Dieu. C'est-à-dire, nous avons besoin que Dieu devienne propice. Et si quelqu'un pose cette question maintenant à M. Dodd, le professeur, qu'est-ce que vous allez faire avec ces passages qui parlent de la colère de Dieu? Il dit, moi, je les comprends comme une espèce de métaphore. C'est-à-dire, si vous faites de mal choses, le mal va vous poursuivre. C'est une loi de moralité dans l'univers. Il n'y a rien de personnel dans cela. Rien de personnel de Dieu dans cela. Mais si vous êtes méchant, des choses méchantes vont vous arriver. Vont vous arriver. Donc, ce qu'il fait, en effet, il dépersonnalise la colère de Dieu. Mais c'est vraiment difficile de lire l'Ancien Testament sans voir, et le Nouveau Testament aussi, sans voir que la colère de Dieu est extrêmement personnelle. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Et ça fait partie du fait que ce dont nous avons besoin, c'est d'être accepté par Dieu. Oh oui, nous avons besoin d'être nettoyés, nous avons besoin d'être renforcés dans nos meilleurs désirs, nous avons besoin de la réconciliation entre nous-mêmes et tout ça. Mais ce dont nous avons besoin, surtout pour être sauvés, c'est d'être réconciliés à Dieu, qui présuppose que nous ne sommes pas réconciliés à Dieu. Parce que Dieu est contre nous. Si donc nous poussons encore plus fort et nous nous posons la question, comment donc est-ce possible que le Dieu qui est contre nous est aussi à la fois le Dieu qui est pour nous? Parce qu'évidemment, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans ce sens, Dodd a raison. Ce n'est pas exactement comme les offrandes propitiatoires des païens. Dans leurs offrandes, c'est nous, les créatures, les êtres humains, qui offrent les sacrifices propitiatoires vers les dieux et les déesses pour gagner leur faveur. Mais si c'est Dieu qui offre le Christ, il est déjà tellement favorable qu'en fin de compte, il donne son Fils. Comment est-ce qu'on peut penser qu'il est contre nous? Et la réponse? Voilà l'Évangile. Dieu est contre nous à cause de notre péché. Il est contre nous à cause de sa justice. Il est contre nous parce que c'est un Dieu de sainteté. Il est fâché contre nous. Il est en colère contre nous à cause de notre rébellion. Mais il nous aime parce qu'il est un tel Dieu. Il nous aime et donc il envoie son Fils. Et son Fils paie le prix pour rendre Dieu propice, c'est-à-dire il est satisfait que sa justice est honorée, que sa sainteté n'est pas souillée parce que quelqu'un paie la dette. Voilà l'Évangile. Je suis persuadé que nous n'annonçons pas véritablement l'Évangile si nous ne comprenons pas que ce dont nous avons besoin au centre, c'est la faveur de Dieu, parce qu'il est contre nous. Si nous présentons le monde comme le monde de victimes, le monde troublé, le monde tout seul dans l'univers, le monde sans but, le monde sans valeur. Mais c'est une espèce de pré-évangélisation. Mais ce n'est pas l'Évangile qui touche cela exactement. Ce que l'Évangile fait, l'Évangile s'adresse au fait que nous sommes éloignés de Dieu. L'Évangile nous réconcile à Dieu et en conséquent, l'Évangile nous réconcile aussi l'un envers l'autre et touche nos faiblesses et nos blessures et nos culpabilités psychologiques et toutes les autres choses. Mais au centre, il faut être réconcilié avec Dieu. Maintenant, je reviendrai à ces points demain, quand nous parlerons ensemble comment évangéliser les non-littrés, les illettrés. Il faut être en accord en ce qui concerne ce que c'est l'Évangile, si nous allons discuter ensemble comment évangéliser. Et c'est juste, donc, de dire que Christ sur la croix annule le péché. C'est un sacrifice expiatoire, c'est vrai. Mais c'est aussi un sacrifice propitiatoire, parce que ça ôte la condamnation juste de Dieu, ça protège sa sainteté, nous sommes réconciliés à Dieu, et ça c'est le point central du sacrifice expiatoire et propitiatoire annuel de l'Ancien Testament, qu'on trouve dans Lévitique chapitre 16 et d'autres passages semblables. Donc, la traduction ici, le propitiatoire n'est pas pire du tout. Pardon? N'est pas mauvaise, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas mal. Pardon, ce n'est pas mauvaise. Oui, merci. Vers la fin de la semaine, je ferai plus d'erreurs. Et ensuite, je retournerai chez moi et je vais complètement oublier les corrections que vous m'avez gracieusement données. L'offrande, verset 6 et verset 7. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Maintenant, si vous voulez savoir quelles sortes de cérémonies sont en vue, vous n'avez que lire Exode 30, versets 7 et 8, et Lévitique 24, verset 8. Par exemple, préparer les lampes, changer le parfum, changer chaque semaine le pain, c'était tout. Verset 7. Mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Et voilà. Lévitique chapitre 16, verset 3. Ça vaut la peine de lire quelques versets de Lévitique 16. Lévitique 16. la fête annuelle des expiations. Aaron devait entrer dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, avec le sang d'un jeune taureau comme sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Et ensuite, il devait asperger ce sang devant le propitiatoire 7 fois, et il y avait un autre bélier pour Azazel. L'expression est difficile, je ne vais pas le discuter ici, mais qui était envoyé dans le désert. C'était seulement une fois par année, jamais sans son. Voilà donc l'offrande. Et ensuite, l'approche, verset 8 à verset 10. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est-à-dire, entrer dans la présence de Dieu était possible, dans ce sens intime, seulement une fois par année, seulement par le souverain sacrificateur, et seulement avec le sang d'un taureau et d'un bélier. Donc, malgré le fait que c'était quelque chose généreux, c'était pour le bien du peuple, sous les termes de l'Ancienne Alliance, et c'était nécessaire et tout cela, mais quand même, les mêmes rites, les mêmes détails nous donnaient en effet des limites, nous donnaient des limitations dans l'entrée que nous avions à Dieu. Verset 9. C'est une figure pour le temps présent. Le mot figure, c'est parabole, parabolé en grec. Ce mot parabole, pour nous, aujourd'hui, signifie une espèce de forme littéraire. Dans le monde grec, c'est une expression beaucoup plus large. Ça peut être un symbole, un type, une farce. Ça dépend complètement du contexte. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Parce qu'après tout, c'est répété, c'est répété, c'est répété, c'est répété. Verset 10. Ce sont là des ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions et imposées jusqu'à un temps de réforme. Maintenant, les raisons pour lesquelles ces sacrifices n'étaient pas efficaces sont détaillées un peu plus loin. Donc, je ne vais pas les expliquer ici. Nous y reviendrons dans quelques instants. Mais, question, commentaire, oui, mais pourquoi choisir? Pourquoi pas adopter tout ce que dit la parole de Dieu? Donc, ça ne me trouble pas si un prédicateur, un orateur, mentionne les conséquences. Les conséquences de péché, les conséquences sociales de péché, ça ne me trouble pas, pourvu que ailleurs, dans d'autres circonstances, dans ses discours, dans ses sermons, il mentionne aussi que c'est Dieu qui est offensé. Après tout, il y a bien des versets qui enseignent qu'il y a des conséquences de péché, et même pas tout simplement des versets, mais l'histoire de l'Ancien Testament, des conséquences pour le peuple de Dieu quand il tombe dans le péché. Mais ce qui me trouble le plus à cet égard, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des soi-disant évangéliques qui parlent tout simplement des conséquences sociales, et pas l'offense que ces péchés donnent à Dieu. Et tout d'un coup, il y a une autre compréhension de ce que fait la croix. C'est ça qui est troublant. À ce point, il me semble que vous avez raison. Quand nous essayons de démontrer que le christianisme est bon pour la société, malgré la laïcité, quand nous essayons de démontrer l'importance du christianisme, qu'est-ce que nous disons? Mais nous disons, voyez-vous, les chrétiens aiment le mariage, ça nous donne des citoyens stables, c'est bon pour les enfants, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire, nous soulignons surtout les conséquences sociales de notre vision de bien et de mal, de fidélité, d'honneur, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et je ne suis pas complètement contre cela. Mais enfin, le but du christianisme, ce n'est pas tout simplement de créer de bons citoyens, mais de réconcilier le monde à Dieu. Et donc, il faut introduire Dieu dans la discussion assez tôt dans la conversation, autrement, ce que nous présentons, ce n'est pas l'Évangile, c'est la réformation sociale. Eh bien, encore maintenant, une place, une offrande, une approche. Place. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Il est entré avec une offrande, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Eh bien, ce tabernacle, comment est-ce qu'on va l'appeler, spirituel ou éternel, ou pas en fonction de cette création, ça veut dire tout simplement la présence de Dieu. C'est tout ce que ça veut dire. Mais il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Donc, ce n'est plus une expiation ou une propitiation annuelle, mais plutôt une rédemption éternelle. Mais peut-être les versets les plus importants ici sont versets 13 et 14. Ces versets ne sont pas faciles. Verset 13. Car si le sang des boucs et des taureaux est le cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair. C'est une façon de dire, ça purifie les choses externes, ça purifie les choses physiques, ça purifie les choses d'un sens typologique. Mais en fin de compte, ça ne touche pas la question de conscience, de la vraie purification personnelle, individuelle et morale pour toute l'éternité, pour chaque individu. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? L'expression difficile ici, ça c'est un calvaromer, hein? A fortiori, c'est-à-dire si ceci, combien plus cela? Mais l'expression difficile ici, c'est qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On répète ces mots, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui par l'Esprit? Cette offert? Est-ce que ça parle du Saint-Esprit? Et si oui, qu'est-ce que ça signifie? Un peu plus loin dans ce chapitre, l'auteur souligne le fait que, qu'en fin de compte, le sang des agneaux, des taureaux, des veaux ne peuvent jamais nous purifier. C'est le sang d'un animal, après tout. Est-ce que le taureau dit, me voici, tu dois me tuer, j'offre ma vie, C'est un sacrifice. Où se trouve la moralité d'un sacrifice ou la valeur morale d'un sacrifice d'un taureau? On pourrait même dire que dans un certain sens, c'est le sacrifice est offert par celui qui possède le taureau. Où se trouve la valeur de ce sacrifice dans le sang d'un animal, après tout? C'est pour cette raison, un peu plus loin dans le chapitre, l'auteur dit, le sang versé des animaux ne peuvent jamais nous racheter, ne peuvent jamais, en fin de compte, nettoyer nos consciences devant Dieu. Jamais. Malgré le fait que, dans un certain sens, sous les termes de l'Ancienne Alliance, il fallait que les croyants fassent cela, et parce que Dieu l'avait ordonné, et il a dit qu'il accepterait ces sacrifices, et donc ces personnes se fient à Dieu et ses promesses, donc dans un certain sens, ils sont prêts à accepter que leurs péchés ont été pardonnés à cause de ces sacrifices des animaux. Mais quand même, pour ceux qui étaient sensibles du tout, ils savaient que le lendemain, peut-être ils convoiteraient davantage, ou ils protégeraient une idole dans leur cœur, ou quoi que ce soit, et ça prendrait un autre sacrifice, et il va falloir attendre 364 jours. Comment est-ce que ça termine, cela? Comment ça plaire à Dieu? Le sang d'un agneau paie pour mon péché? Où se trouve donc la valeur du sacrifice de Christ? Ce n'est pas un animal qui a été tué. Ce n'est pas un martyr qui était tellement bouleversé par les mouvements historiques qu'il n'avait vraiment pas de choix. Il sait donner. Il sait donner. Et c'est le sacrifice de qui? Seulement un être humain? Non, c'est le sacrifice de celui par sa propre volonté, par son esprit. L'esprit de celui qui habite l'éternité et qui est manifesté en chair. Le sacrifice de celui qui est animé par l'Esprit éternel qui s'offre. Je ne pense pas que ce texte fait référence à l'Esprit Saint, c'est-à-dire troisième personne de la Sainte Trinité. Je pense que ça veut dire tout simplement qu'en contraste avec les animaux, le sacrifice de Christ, le sang du Christ, signifie le sacrifice de celui qui s'est offert par l'Esprit éternel, par toute sa volonté, par tout ce qu'il était, le Dieu homme, sans tâche à Dieu, pour nous racheter. Voilà la valeur infinie de ce sacrifice. Eh bien, prenons une pause de 5 minutes, seulement 5 minutes,